Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Où en est-on aujourd'hui en Bretagne et ailleurs de la protection et de la restauration de la biodiversité en ville ? Les périodes de confinement du Covid-19 ont montré que beaucoup d'urbains dans cette situation ont eu besoin de s'extraire de leur ville. Est-ce à dire qu'elles sont devenues invivables ? Nous en discuterons dans quelques minutes avec Philippe Clergeau, professeur émérite au Muséum national d'histoire naturelle. Mais tout de suite, direction la petite ville de Pont-de-Buis dans le Finistère pour suivre une expérimentation paysagère participative afin de réaménager une venelle, une petite rue, pour relier le bas et le haut de la ville. Sophie Pathé, l'adjointe à l'environnement de Pont-de-Buis, les Chimères, nous explique tout d'abord comment cet architecte s'y est pris. C'est au micro de Véronique Museau de Radio Évasion et Transistor dans la région du Fou dans le Finistère.
C'est-à-dire qu'il a invité différents jeunes d'écoles de paysage, mais aussi plus largement, on aura aussi des étudiants en beaux-arts qui vont venir pendant une semaine restaurer, aménager et créer ce chemin piéton dans la Venelle. Et on a aussi le centre de loisirs le mercredi et l'espace jeune, les jeunes de l'espace jeune qui vont aussi prêter main forte.
Comment se présente la Venelle ?
Et ben en fait, quand on part de la gare et qu'on descend la Grand Rue, il y a un petit escalier sur la droite, et il y a quelques habitations, et ensuite il y a une grande descente avec un espace naturel. Quand Fabien l'a découvert, lui, il a carrément dit que c'était un poumon à l'intérieur de Pont-de-Buis, où il y a un ruisseau qui est assez magique, qui se charge des eaux pluviales en fait, des hauts de Pont-de-Buis, et du coup, ça fait un espace hyper agréable, hyper détente. Bon, par contre, effectivement, il faut un peu travailler les mollets pour remonter. C'est un lieu aussi patrimonial, en fait, parce que c'était là où, en fait, circulaient les poudrières et les poudriers qui venaient de la gare ou des hauts de Pont-de-Buis jusqu'à la poudrerie. Donc, il va y avoir un cheminement, comme dans les espaces naturels protégés, à l'intérieur de la nature pour aller vers les écoles, quoi.
Ouais, parce que les bords du ruisseau sont devenus presque une friche, enfin on peut dire ça comme ça, et donc il y a une biodiversité à protéger un peu, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. L'idée, c'est effectivement qu'on ne vienne pas piétiner l'existant, qu'on puisse faire les aménagements, mais effectivement qu'on puisse conserver ce poumon vert.
Fabien Laville, c'est à lui qu'on doit cette idée de chantier pédagogique dont il est coutumier.
C'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Voilà, je l'ai fait en France, mais je l'ai aussi fait à l'étranger, en Bosnie. Et c'est quelque chose qui me semble vraiment important de travailler différemment sur l'espace, notamment l'espace naturel, surtout quand il est sensible, il est difficile à maîtriser. On n'arrive pas à lire cet espace sur un ordinateur et devant des plans AutoCAD. Je pense qu'il faut vraiment être sur le terrain et avoir un regard. Et nous, on est contents aussi d'avoir 15 personnes qui débarquent sur un site pendant une semaine à venir identifier une faune, une flore, des arbres, à tourner autour, y aller, pas y aller, faire un passage, un petit chemin, on passe au-dessus de l'eau, comment, voilà, c'est que des choses que j'ai vraiment envie de développer, parce que je pense que c'est vraiment la façon de faire de demain, et plus de faire dans notre coin des plans, des machins, des trucs, et puis...
Des murets,
et se retrouver sur des trucs qui ne fonctionnent pas, parce que voilà, on va se retrouver à faire un ponton en bois, on se rend compte qu'en fait c'est pas 2 mètres, c'était 3 mètres qu'il fallait faire, et on a beau très bien dessiner, maîtriser les 3D, je pense qu'il n'y a rien qui changera le terrain.
Alors, premières impressions des terrains, en particulier de la Venelle de la gare.
Moi, j'ai été complètement émerveillé. Voilà, je suis très calé biodiversité, protection de l'environnement et l'écologie. Et là, c'est un milieu vallon oublié avec ce petit cours d'eau que personne n'a identifié dans les documents d'urbanisme, qui n'existe pas, mais qui existe là. Des saules marceaux qui n'ont jamais été touchés, donc... qui sont magnifiques. Mais quand je dis magnifiques, ils sont... Moi, j'ai été ébahi quand je suis allé. À chaque fois, il y avait un temps magnifique. Il y a ces espèces de milieux où, un peu humides juste avant pour y accéder. On se dit, mais là, on a juste envie de se poser et de lire. Là, on parle de changement climatique, on parle de forte chaleur. Là, c'est super, il va faire super chaud. Ben, on va être au meilleur endroit dans la ville, dans ce vallon au frais sous sa strate arborée. Et on va faire des petits... Comment on accède, voir ce ruisseau? Est-ce qu'on a envie d'aller l'écouter, aller le regarder par où on va passer. J'avais des étoiles dans les yeux quand j'ai visité ce truc-là et j'ai dit à la ville, je pense qu'il faut absolument pas faire ce que vous voulez faire, c'est-à-dire appeler une entreprise, faire un chemin qu'on aura dessiné en 3D qui va coûter un bras. Ça se trouve, il n'y a personne qui va l'utiliser en plus ce chemin. On n'en sait rien, il n'existe pas ce chemin. C'est une belle idée sur la carte ou le document. La réalité, c'est qu'on ne sait pas s'il y aura des gens. Bah, faisons peut-être un test, une expérimentation. À chaque fois, je leur disais attention, hein, ce qu'on va faire, ce n'est pas un aménagement propre. Machin. C'est, on va être plutôt sur du sentier de montagne, petite randonnée, petit banc, on va faire de la construction. Mais voilà, très humble comme construction. Si ça marche, c'est super, bah, on pourra peut-être renforcer un peu le cheminement, l'élargir, remettre des cailloux pour le sol, machin. Là, on va pas faire tout ça, on va pas faire un chemin en pierre et compagnie, on va vraiment tracer le chemin par où on passe et voir. Voilà, c'est, je parle souvent, voilà, si ça marche pas, c'est pas grave. Moi, je le dis, on n'a pas encore commencé le truc, je suis extrêmement fier de la collectivité qui... faire ça. On va rencontrer les gens et on va en parler. Il va falloir leur communiquer autour de ça. Venez découvrir ou redécouvrir votre patrimoine écologique. Il y a un vallon qui est magnifique. On va parler aussi des choses qui sont compliquées par la suite, qui est en train de se faire envahir par des espèces végétales. Certains disent invasives, en tout cas, sont en train de coloniser. Et...
Oui, il y a quoi, par exemple?
Là, il y a plein de lauriers.
Laurier palme.
Ouais, plein de lauriers palmes. D'une haie, mais voilà, ils se sont ressemés. Là, il y en a, je ne sais pas, il y en a potentiellement 300 hein, dans tout le vallon. On ne fait rien aujourd'hui, c'est magnifique, mais si on revient dans 5 ans, ça n'aura pas du tout la même gueule. Donc, peut-être qu'il y a un ou deux étudiants qui vont... on va peut-être enlever tous les petits lauriers palmes. Ça ne va pas se voir en soi. Sur le site. Mais sur le long terme, on va peut-être retarder un petit peu sa transformation. Il y a une mare, il y a des grenouilles, il y a des oiseaux magnifiques. Voilà, il y a quand même des choses sur un tout petit bout de machin, un tout petit bout de terrain, un peu oublié, presque désuet. Faut voir les choses comme elles sont. Il y a des choses magnifiques à faire. Quoi.
Deuxième jour de l'expérience. Nous voici dans la Venelle. On ne voit pas un humain. On entend beaucoup d'oiseaux, surtout des choucas. Ah si, on perçoit des voix au loin, quelque part dans les broussailles. Au bout d'un moment, voici la petite troupe qui descend le coteau, en file indienne, comme dans une jungle, qui a du mal à traverser le ruisseau. Et qui finit par rejoindre la Venelle. Premières impressions.
C'est super. En vrai, c'est très joli quand on s'écarte un peu là. Il y a des arches faites avec des arbres qui sont vraiment un peu féeriques, quoi. On a pu passer en dessous du ruisseau, enfin passer au-dessus, mais aussi il y a un arbre en fait qui fait une courbe. Et tout de suite, en fait, c'est devenu évident de passer par là, mais après, peut-être qu'on pourrait revenir plutôt sur le chemin. On ne sait pas.
En fait, il y avait ce rapport esthétique qui... on a un peu suivi le truc comme... c'est joli, donc c'est chouette de faire un chemin ici plutôt que... Est-ce que c'est vraiment pratique, quoi?
Parce que là, ça descend fort quand même dans la forêt, là, non?
Ça va. En fait, on pourrait réussir à faire... quelque chose de plus, moins rapide. C'est faisable.
Ouais. Mais bon, il y a quand même des troncs.
Faire des toboggans.
Ouais, il y a beaucoup de saules. Peupliers blancs, frênes, sureaux, saules, saules pleureurs et saules marceaux. Il y a le saule des vanniers, il y en a plein. Ouais.
Je dirais que j'aime beaucoup le fait que dans la ville, on puisse avoir une traversée où justement on n'a plus l'impression d'un tissu urbain. Et je trouve ça vraiment appréciable de juste entendre les oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles et juste la lumière, elle perce, ça fait des jolies couleurs, c'est agréable.
Accélérons un peu le temps et allons à présent en septembre. L'aménagement a été inauguré fin juin. Le chantier pédagogique a débouché sur un petit tracé dans la forêt avec des marches quand c'est trop raide. Une passerelle sur pilotis pour franchir le ruisseau. Pas de toboggan ni de tyrolienne, mais un petit cheminement en bois réservé aux enfants pour passer sous un tronc d'arbre. En cette journée du patrimoine, Kevin Laplège est revenu faire une visite commentée de la Venelle, dont le nouveau parcours est devenu Venelle des écoles. Retour sur cette expérience.
Qu'est-ce qu'on a choisi de faire ? On a choisi de mettre en valeur en fait les endroits où ce patrimoine végétal était le plus donnait les impressions les plus fortes en fait. Je pense par exemple au cœur en fait de la Venelle où on a choisi de faire une plateforme qui en fait était entourée par les peupliers blancs, donc on a vraiment une impression de cathédrale. Donc c'est comme ça en fait mettre en valeur la flore indigène le plus possible, quoi, jouer sur les textures, la lumière, le mouvement, etc. Montrer en fait que ce qu'il y avait dans la Venelle de la gare était digne d'intérêt, même si c'est de la flore spontanée indigène, voilà, et qu'il n'y a pas d'ajout. C'était vraiment de creuser, de sculpter, de souligner plus que faire un travail d'ajout, de conception, quoi.
Voilà, à l'instant, ce reportage sur cette expérience de réaménagement paysager en faveur de la biodiversité en ville qui a été menée à Pont-de-Buis dans le Finistère. Reportage signé Véronique Museau de Radio Évasion, votre radio associative locale dans la région du Fou, de Châtelain et de la presqu'île de Crozon. Alors pour aller plus loin sur ce sujet de la biodiversité urbaine, nous avons le plaisir d'être en liaison avec Philippe Clergeau, professeur émérite au Muséum d'Histoire Naturelle, mais aussi notamment directeur de la collection Écologie urbaine aux éditions Apogée. Philippe Clergeau, bonjour.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer en quelques mots le sens de vos recherches que vous menez depuis plusieurs années maintenant? Votre biographie vous présente aujourd'hui comme consultant en écologie urbaine et en écologie des territoires depuis 2011. Quel est le sens un petit peu de vos recherches?
Alors, bien avant 2011. 2011, c'est le moment où j'ai créé une auto-entreprise pour pouvoir donner plus de conseils et plus facilement aux collectivités notamment. Bah, donc du coup, j'ai commencé un ancien de l'INRAE, j'ai travaillé beaucoup sur la faune ravageur des cultures et puis après, dans les années 2007-2010, j'ai intégré le Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, où j'ai monté une équipe spécialisée sur l'écologie urbaine, ce qu'il n'y avait pas beaucoup à l'époque, mais qui répondait aussi un peu à des demandes, je pense qu'on va en parler, des demandes des collectivités, etc. etc. Alors les recherches, moi j'ai travaillé plutôt sur la grande échelle, j'ai fait beaucoup d'écologie du paysage, j'ai travaillé un peu sur la planification, des éléments comme ça, mais dans mon équipe, j'avais des botanistes qui travaillaient sur la dispersion des graines, d'autres collègues qui travaillaient sur les mycorhizes, sur les toitures, pas mal d'approches de biodiversité et d'écologie qui sont liées à la ville elle-même. Et c'est assez nouveau parce que on travaillait peu sur ce type d'environnement et de site.
Comment vous regardez ce type de projet? On vient d'entendre ce projet participatif de valorisation d'une Venelle dans un petit centre-bourg, quand effectivement des villes essaient de s'engager pour aller plus loin sur du réaménagement paysager, mais qui va aussi dans le sens de la biodiversité et du bien-être aussi des habitants de la ville.
Oui, je ne peux que trouver ça absolument intéressant et dans le bon sens. Ça mérite d'être un peu développé. Alors évidemment, sur des tout petits bourgs qui ont des environnements qui sont déjà bien naturels, c'est souvent moins évident.
Moins spectaculaire, peut-être.
Ouais, peut-être aussi. Il y a moins besoin de reconnexion qui est attendu beaucoup plus dans les villes moyennes ou les grandes villes, ça c'est certain. Mais ça montre déjà aussi un effort d'avoir autre chose que des promenades. Qu'on a fait beaucoup dans toutes les villes, c'est-à-dire qu'on plantait pour pouvoir avoir un peu d'ombre et puis pour avoir un peu d'ambiance. Aujourd'hui, il y a un vrai sentiment de recherche de biodiversité, de conserver un peu des fonctionnements naturels. Je pense qu'on va revenir aussi sur un peu ces notions de processus écologiques qui permettent d'aller plus loin que simplement verdir la ville.
Alors justement, pour faire un petit peu déjà un état des lieux, comment vous jugez aujourd'hui l'état de la biodiversité dans nos villes en 2024? Est-ce que la préservation de la biodiversité y est suffisamment prise en compte ou est-ce toujours insuffisant?
Mon sentiment, c'est que, je travaille depuis les années 1990 à peu près sur le sujet, c'est qu'il y a une amélioration très nette de cette approche-là. Je crois que le Grenelle de l'environnement était un vrai virage qui a été pris en compte par pratiquement tout le monde. Ce qu'il y a, c'est que moi, je fais un peu la part des choses entre ce qui est la plantation d'arbres, notamment, c'est ça qui est le plus important et le plus pérenne dans la ville, et d'arbustes, voire d'espaces verts, où on est resté pendant très longtemps sur quelque chose qui était assez ambiance, esthétique, historique. Et donc, ça rend plein de services, on en a besoin. Et c'est ça qui rend la ville vivable. On a besoin de cette végétation pour pouvoir respirer, avoir un peu plus de fraîcheur ou autre. Et c'est vrai que nos travaux scientifiques montrent qu'il faut qu'on dépasse ça, qu'on aille vers une biodiversité. Alors, c'est pas pour juste avoir quelques écureuils en plus, c'est aussi parce que le fonctionnement beaucoup plus complexe, beaucoup plus complet de cette végétation, c'est-à-dire les espèces entre elles, leurs déplacements ou autres, ça fait que c'est beaucoup plus durable. C'est-à-dire qu'on a l'idée forte, c'est de reconstruire des écosystèmes, c'est-à-dire des fonctionnements comme il y a dans une forêt, un lac, une lande, hein, c'est-à-dire des jeux d'espèces les unes avec les autres. Voilà. Et ça c'est important. Alors aujourd'hui, il y a une compréhension, je crois, de ce processus, hein, de passer de la nature en ville, qui est bien en train de s'établir partout. Alors surtout avec l'arrêt des pesticides, hein, en ville, hein, ça a été quand même un virage que nous on a très très bien vu, hein, l'arrivée de plein de petites fleurs sauvages, d'insectes. Puis quand on a des insectes, et ben du coup on a des lézards, on a des oiseaux, et on a des reconstructions de chaînes alimentaires, quoi. Hein, voilà. Donc il y a une prise de conscience aujourd'hui, mais alors oui, pour moi, évidemment, scientifique, c'est quand même insuffisant. On a du mal encore à travailler à la grande échelle. Et l'exemple que vous citez là, à Pont-de-Buis, c'est typiquement cette grande échelle. C'est-à-dire qu'il suffit pas d'avoir une bonne gestion d'un parc et de choisir quelques bonnes espèces locales en plus des platanes qu'on met ou des marronniers qu'on met. Il faut aussi penser à comment ces espèces vont se disperser, s'organiser dans l'espace et dans le grand espace. Et les connexions entre, alors le centre-bourg, c'est un peu compliqué, hein, mais enfin au moins entre la ville, le bord de la ville, le bord du bourg, et puis sa campagne, c'est avec ses zones de plus naturelles, hein, comme des bois par exemple, ça c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment pris en compte.
Il y a des choses visibles, palpables, effectivement, dans les villes et de façon globale, entre les villes et les campagnes, de cette insuffisance de prise en compte de la biodiversité en ville.
La première chose, c'est que oui, il y a des choses qui sont mal faites. Hein. À Paris, quand on parle des fois de... Ouais, ça a été le cas à Montpellier aussi. On parle de trame verte, notamment, donc de forme de continuité, de corridor écologique. Enfin, quand on regarde, c'est une série de pots avec un végétal dedans ou c'est juste un aliment de platane. Donc, faut pas exagérer non plus, quoi. Voilà. Donc là, on est un peu sur travestir un peu le propos scientifique, comme pour les forêts. Je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais voilà, les forêts urbaines, c'est un terme qui ne convient pas la plupart du temps. On ne fait pas des forêts urbaines, hein. On fait des plantations d'arbres et on essaye que ça se rapproche plus ou moins de quelque chose qui ressemble à un écosystème. La plupart du temps, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, ça c'est les côtés un petit peu négatifs, quoi. Hein. Donc voilà, il faut franchir un pas de toute évidence pour intégrer de la diversité d'espèces. Alors beaucoup de choses maintenant qu'on travaille sur la qualité de sol, hein, on s'aperçoit que le sol c'est complètement fondamental. Si on a un assez bon sol avec des micro-organismes, etc., on va pouvoir avoir une petite végétation de surface ou d'arbustes, voire d'arbres qui vont mieux se tenir. On va avoir des vraies relations et on refait des petits écosystèmes. C'est ça qui est important et qui va être durable. Ça va nous demander beaucoup moins de gestion aussi. Mais voilà, c'est une démarche qui va pas de soi, qui est pas toujours dans la culture des services et surtout des élus.
Philippe Clergeau, je reste encore un petit peu dans cette interview sur le constat. On a eu une période un peu historique de confinement qui a été liée à l'épidémie de Covid-19 en 2020-2021 et qui a montré en France et dans le monde des départs massifs d'urbains ne supportant plus la ville. Est-ce que c'est un phénomène qui prouve que nos villes sont devenues irrespirables au fil du temps et qu'aujourd'hui, il faut réagir? Est-ce que c'est une preuve tangible déjà qu'il faut réagir?
Pour nous, scientifiques, tout à fait. Tout à fait, ah oui, ça c'est clair. Et on a tous pensé, on a tous écrit pendant cette phase de Covid, hein, qui a été quand même relativement longue, que plus rien ne pourrait être comme avant, parce qu'on pensait que tout le monde aurait compris qu'il fallait changer l'ambiance, les espaces publics, la façon de vivre la ville pour que les gens s'y trouvent bien quand même. Voilà. Et le constat, il n'est pas là, quoi, hein. On est revenu tout à fait à ce qu'il y avait avant. Et par contre, voilà, pour nous, c'est vrai que ça a bien démontré que la ville est un lieu de travail et de culture, un lieu social très important, mais c'est un lieu qui manque où il manque vraiment quand même une donnée fondamentale qui est cette relation à la nature. Et le summum, c'est, on avait fait des articles hein, à l'époque dans la presse hein, pour crier au scandale, c'est quand les collectivités, notamment dans des très grandes villes, avaient fermé les parcs urbains, quoi, qui était le summum de la bêtise. À savoir que justement, les gens, ils avaient besoin de sortir et c'était là où il y avait des espaces qui permettaient de pouvoir respirer et supporter sa vie, notamment en appartement.
En dehors de ce cas particulier de cette épidémie du Covid-19 et du confinement, est-ce que la ville a finalement aussi aujourd'hui un grand rôle à jouer dans la préservation de la biodiversité globale ? Je veux dire, par rapport aux campagnes qui, elles, bon, voilà, existent, améliorent peut-être leur biodiversité petit à petit, mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut se concentrer sur les villes, justement, pour restaurer une biodiversité globale dans une région, dans un département ou dans un pays ?
Non. Faut être tout à fait honnête, ça c'est une vision un peu raccourcie, un peu simpliste. La ville n'est pas l'avenir de la biodiversité. Faut vraiment être clair là-dessus. Hein. La biodiversité, c'est des grands espaces, et la ville ne permet plus ces grands espaces, ces grandes zones complètement naturelles. D'abord parce qu'il y a une fréquentation énorme, il y a un dérangement qui est constant, il y a des contraintes multiples. Alors on a parlé un peu de la température, mais il y a toutes les pollutions, etc., etc. Donc l'idée, elle est pas dans ce sens-là. La ville n'est pas l'avenir de la biodiversité. Il faut vraiment être très très clair là-dessus, parce que c'est trop dangereux d'imaginer cela en disant n'importe comment on a qu'à faire. Parce que fait la Chine, hein, c'est-à-dire un zonage extrême. On a des zones de production qui sont gigantesques. On n'a pas un arbre, on n'a plus rien comme vie dans sauf ce qu'on produit. Hein. Il y a les villes qui sont pour l'homme et on a quelques très grandes réserves qui sont dans les montagnes, c'est là où il y a le panda et autre chose. Et c'est le discours qu'ils tiennent. Quand moi, j'ai travaillé un tout petit peu avec Pékin, c'est vraiment ça qui est avancé et qui est souligné. Et il faut surtout pas qu'on rentre dans cette idée-là. La ville peut participer, et aujourd'hui, l'intérêt de la ville, c'est de se rapprocher de fonctionnement écologique pour que la ville, voilà, fonctionne un petit peu avec son environnement. Mais c'est certainement pas la ville qui permettra la sauvegarde des espèces ou autres. Alors, bon, il y a des espèces qui sont très liées à l'urbain, voilà, les martinets, c'est en ville et c'est pas en campagne, etc. Mais ça, c'est un petit peu marginal. Je pense qu'il faut être assez clair sur les objectifs qu'on vise en favorisant une biodiversité urbaine. C'est vrai que c'est pour les espèces, c'est surtout pour l'homme, et c'est pour que ça soit plus durable que ce qu'on fait aujourd'hui.
Alors justement, vous parliez des espèces, j'imagine qu'il faut en ville quand même travailler assez fortement sur la restauration des habitats pour les animaux, mais aussi que les urbains apprennent aussi eux-mêmes à cohabiter peut-être avec les différentes espèces dans les centres urbains, ce qui s'est un petit peu perdu finalement comme comportement. En ville, on regarde un peu les animaux de très très loin.
Tout à fait. Ah bon, ça dépend de quels animaux. Hein. On a fait plein d'enquêtes sociologiques sur des sujets comme ça. On démontre que les petits oiseaux, rouge-gorge, les mésanges, sont voilà, on essaye de les attirer au plus près sur le balcon et autres. C'est vrai que les insectes et les reptiles, c'est un peu moins recherché. Vous l'avez bien dit. Je crois qu'il y a une forme d'acceptation nécessaire pour pouvoir franchir ce pas d'une biodiversité plus présente. Alors quand c'est des végétaux, ça va encore à peu près, mais c'est vrai que les animaux sont beaucoup plus répulsifs pour plein de gens. Et ça, c'est lié à une éducation et une sensibilisation. Hein, ça veut dire qu'il faut absolument que les enfants, qu'à l'école, il y ait cette approche et qu'on comprenne que une araignée, c'est pas obligatoirement dangereux, des fourmis, c'est pas obligatoirement sale, etc., etc. Donc ça va avec une sensibilisation. Et puis une prise en compte, voilà, qui permet de développer un peu ce sentiment à la nature qui s'exprime. Hein. Alors, il s'exprime mal parce que les gens, effectivement, ils sont plus proches des animaux domestiques, des petits oiseaux. Mais il y a un vrai besoin qui existe et sur lequel il faut effectivement travailler. C'est un des objets, c'est un des leviers hein, pour pouvoir aller vers une nature en ville qui soit plus proche d'une biodiversité fonctionnelle, naturelle.
Pour que ça fonctionne justement à cette échelle plus grande, est-ce qu'il n'y a pas des freins inhérents aux villes ? Je pense notamment au phénomène de pollution urbaine.
Les freins, ils sont, alors les freins tels qu'ils sont montrés et développés par les collectivités, c'est financier en général. C'est-à-dire, il nous faudrait racheter des terrains, il faudrait qu'on change l'espace public. Donc voilà, la pollution n'est pas vraiment un frein. C'est vrai que la pollution, elle a baissé hein, quand même. Hein. Faut voir que la pollution urbaine a baissé depuis une trentaine, vingtaine d'années par rapport à la fin du XXe siècle où on avait un taux de particules fines et notamment et de CO2 qui était énorme. Là aujourd'hui, avec nos pots catalytiques, avec le type de voiture et les contraintes qu'on met, on a moins de pollution, notamment, on parle moins de pollution atmosphérique.
Par contre, on voit dans nos grandes villes, je pense notamment en région ouest, à Nantes, à Rennes, ces villes qui poussent, qui s'agrandissent, qui viennent grignoter forcément du terrain sur la campagne, puisqu'elles s'agrandissent de plus en plus avec une promotion immobilière assez conséquente. Est-ce que ça, c'est pas effectivement finalement plus un danger que la pollution elle-même?
Ah oui, tout à fait. Pendant très longtemps, l'étalement urbain est un problème gigantesque pour la survie des espèces au niveau d'un département, d'une petite région, d'un pays, etc. Alors, vous avez cité Nantes et Rennes qui ont eu des comportements de planification complètement opposés. Alors évidemment, quand je dis ça, bien sûr, je me fais incendier par les uns et par les autres. Mais bon, quand on regarde de façon très scientifique et très géographique ce qui se passe, Nantes s'est étalé d'une façon complètement outrancière sur des espaces gigantesques avec assez peu de planification. On se retrouve avec des villes qui sont trop étendues, trop étalées. Rennes, au contraire, a conservé un peu sa ceinture verte, comme on disait, pendant très longtemps et a une densification qui est à peu près la même que dans Nantes. Alors, c'est des villes qui n'ont pas la même histoire et qui n'ont pas la même taille non plus, bien évidemment. Donc voilà, c'est des éléments qui contraignent évidemment la survie des habitats qui sont écrasés. Et quand je dis, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai souvent écrit, c'est que la biodiversité en ville, aujourd'hui, elle s'améliore. Mais c'est dans la ville, en intramuros, parce qu'on a moins de pollution, parce qu'on n'a plus de pesticides, parce qu'on fait attention un peu plus à ce qu'on plante comme végétaux, parce qu'on fait attention au sol. Et quand on regarde à l'échelle... alors notamment d'une métropole ou d'une agglo, là c'est différent. Oui, on a une destruction des habitats, donc on a une biodiversité qui, à grande échelle, a une tendance à se casser la figure.
Philippe Clergeau, on passerait des heures à discuter avec vous, c'est passionnant, mais on est un peu contraint par le temps. Juste une dernière question, au-delà de cet entretien, pour que nos auditeurs puissent peut-être aller plus loin que cet entretien, justement, sur ces enjeux, pourriez-vous peut-être nous parler brièvement aussi de cette collection et des principaux ouvrages que vous dirigez sur le sujet qui nous anime aujourd'hui ?
Alors effectivement, je suis directeur de collection d'une collection qui s'appelle Écologie urbaine, donc au pluriel, chez Apogée. Apogée, c'est un éditeur rennais. Et on a déjà trois ouvrages qui sont sortis. Hein. Le premier, Urbanisme et biodiversité, qui prend, alors j'ai demandé à énormément de collègues scientifiques, mais aussi de façon très opérationnelle, hein, des paysagistes, des architectes, d'intervenir. Donc voilà, c'est un ouvrage qui est assez gros et il y a beaucoup de choses dedans, qui datent de 2020. Donc c'est assez récent. Et puis depuis, il y a eu un ouvrage qui a été écrit par un groupe de réflexion sur l'écologie urbaine et où sont les pistes un petit peu des éléments qu'on a soulevés là avec quelques exemples. Le dernier qui est sorti en septembre, c'est sur la végétalisation des façades. C'est écrit par un architecte spécialiste de ce sujet-là. Et puis là, il y a deux ou trois qui sont en cours. Il y en a un sur la ville régénérative, comment la ville peut être un immense écosystème avec plein d'éléments, hein, qui a été écrit par un ingénieur architecte.
On ne manquera pas de mettre un lien vers ces ouvrages dans la page podcast de l'émission. Philippe Clergeau, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur émérite au Muséum d'Histoire Naturelle, le site du muséum, centre et scientifique qui étudie la Terre et le vivant du passé, du présent, mais en interrogeant l'avenir. C'est mnhn.fr. Vous retrouverez sur ce site une mine d'or de documents sur les recherches qui y sont menées. Toutes nos émissions sont diffusées sur vos radios locales associatives en Bretagne, sur Radio Boa, leur émanation régionale en DAB+, la radio numérique terrestre, et son ton podcast sur le site de corlab.org. À bientôt donc pour un prochain épisode de Biodiversité en air, votre série dédiée aux actions en faveur de la biodiversité en Bretagne. Merci beaucoup Philippe Clergeau.
Merci à vous.
Et d'ici là, donc, prenez soin de vous et donc prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par la CORLAB, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.